C'est donc la police française qui fait de l'immigration clandestine, puisqu'elle emmène en Italie
des
gens qui ne devraient pas y rentrer.
Dans le sens où, en fait, il y a quand même y a tout un cadre juridique, normalement, qui encadre et la non-admission, enfin, et le refus d'entrée, et la réadmission qu'on appelle immédiate. C'est-à-dire que c'est un accord qui s'appelle l'accord de Chambéry, qui est un accord bilatéral entre la France et l'Italie, et qui permet, donc ça c'est les deux pays qui se sont mis d'accord, à la France de saisir l'Italie pour qu'il y ait une réadmission immédiate. Et c'est ce qui se passe depuis la PAF de Menton. Mais bon, voilà, très bien, ça c'est dans la loi, voilà. Sauf qu'il y a quand même un certain nombre de droits pour les personnes exilées qui ne sont actuellement pas respectés. Et deux, sur la question des mineurs, là, le fait de, un, les renvoyer par le train sans en informer l'Italie, et de deux, de renvoyer un mineur comme ça, en lui faisant un espèce de refus d'entrée, enfin, la première page du refus d'entrée, ça, c'est complètement illégal.
Ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, quand on a rencontré la police aux frontières italiennes, ils nous ont bien expliqué qu'ils ne réadmettaient pas les mineurs, justement, parce que à partir du moment où ils arrivent sur le sol français, ce n'est plus l'Italie qui est compétente et ils doivent être protégés. Après, peu importe le cadre, hein, soit ils sont considérés comme étant à la frontière et du coup c'est le régime de, comme vient de vous l'expliquer Marine, du refus d'entrée avec le jour franc automatique et l'administrateur ad hoc, soit ils sont sur le territoire et dans ces cas-là, ils doivent être pris en charge par l'ASE. Et du coup, vu que les militants locaux sont beaucoup manifestés, se sont beaucoup intéressés à cette question de la minorité des deux côtés de la frontière, quand nous on y allait, les Italiens nous ont dit la PAF italienne nous a dit qu'ils ne reprenaient pas les mineurs. Bon, on a vu après que c'était pas le cas, et du coup, d'où en fait le fait que la police les fasse passer par le train, parce qu'une fois qu'ils sont dans le train, ils arrivent à la gare de Vintimille, et puis c'est tout. Alors que s'ils passent par ce point-là, en principe, c'est la police italienne qui va venir les récupérer. Et donc, ils ne les récupéraient plus à ce moment-là. On sait très bien que c'est pas forcément le cas, parce qu'on a vu après des mineurs qui avaient été renvoyés en Italie par le biais du travail conjoint de la police française et de la police italienne par des renvois terrestres.
Ouais. Après, sur la... Enfin, nous, ce qu'on avait ressenti quand on a discuté avec la police aux frontières italiennes, c'était un peu, sans prendre ce qu'ils disent pour argent comptant, hein, mais c'était un peu... C'était un peu le cadet de leurs soucis, quoi. Je veux dire, il faut déjà qu'ils gèrent des centaines de personnes. On nous a dit à l'époque, hein, donc c'était il y a 2 mois, entre 100 et 150 personnes par jour réadmises officiellement. Donc on est largement au-dessus de ça avec toutes les personnes qui sont mises dans le train. Et du coup, les mineurs, c'était un peu... Puis en plus, ils disent, bah oui, mais en même temps, c'est nos partenaires, donc on va pas aller les fliquer. Enfin, on a autre chose à faire que de leur dire, mais non, vous faites des trucs illégaux. Enfin, donc voilà, c'était un peu le truc, bah, qu'est-ce qu'on peut y faire, quoi. Nous, on fait notre boulot, voilà. Donc bon, très encourageant. Et donc le troisième point, le troisième constat qu'on a fait, qui nous a justement amené sur du contentieux, c'est la question de l'existence de lieux, au pluriel, de lieux de privation de liberté. Le premier lieu, c'est celui-là. Donc c'est les locaux de la PAF de Menton, qui est vraiment sur la frontière franco-italienne. Et vous voyez qu'il y a des Algeco qui ont été installés, des petits toy-toy, des toilettes douches portatifs, enfin mobiles. Ça existe depuis 2015. Le fait que des personnes passent en tout cas un moment ici, ça peut être quelques minutes, hein, ça peut être une quinzaine de minutes, jusqu'à une nuit entière. Donc on est sur plus de 12 heures. Ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, c'est quand Laure a discuté, a échangé avec des policiers en zone d'attente au niveau de l'aéroport de Nice, où en fait ils parlaient de la zone d'attente de Menton. Et à plusieurs reprises, on nous a parlé de la zone d'attente de Menton. Donc du coup, on a fait un peu les neuneux, quoi. On a débarqué là-bas en disant « Ah bah super, l'ANAFE, zone d'attente, on visite !» Et évidemment, là, ils ont fait « Ah mais si, mais non, on ne sait pas, en fait, zone d'attente. » Enfin, sans rentrer dans les détails, c'était un peu les gens à l'accueil qui disent « Oui, il n'y a pas de problème, vous voulez un jus d'orange ? Oui, vous allez visiter la zone d'attente. » Et le colonel qui sort en disant « Mais non, mais oui, mais non, mais en fait non, c'est un lieu de privation de liberté temporaire pour des personnes non admises. » On fait « Hum, c'est une zone d'attente, merci. » Mais en fait, il n'y a pas d'arrêté qui crée la zone d'attente. Donc, ce n'est pas une zone d'attente. Bref, donc on s'est retrouvés là-dessus. Et c'est à partir de là qu'on a décidé de... Non. On a pu rentrer à l'accueil, quoi, mais pas pour visiter. Et puis, il y a d'autres personnes, d'autres assos locales qui avaient essayé de rentrer avec des cartes de visiteurs ANAFE qui n'avaient pas non plus pu rentrer. Du coup, on a décidé de lancer un référé liberté auprès du tribunal administratif de Nice avec l'idée de démontrer, de dénoncer l'existence d'un lieu de privation de liberté qui existait sans aucune, enfin qui existe toujours d'ailleurs, sans aucune base légale. C'est pas un local de rétention, c'est pas une zone d'attente, c'est pas non plus dans la loi, ça pourrait pas vraiment être une vérification d'identité puisque. C'est des personnes qui sont non admises sur le territoire et une vérification d'identité, il faudrait qu'elles soient déjà admises sur le territoire français. Donc, ça voudrait dire reconnaître qu'elles sont sur le territoire français. Enfin, bref, il y avait une grosse zone de flou par rapport à cette situation. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé de récolter un certain nombre de preuves et de faire ce référé liberté. Là, je donne la parole à... Alors.
Oui, du coup, effectivement, on a initié un référé, donc, comme l'a dit Marine, pour constater plusieurs choses, donc l'existence de ce lieu privatif de liberté, le fait que le droit d'asile n'était pas respecté à la frontière, la privation de liberté des mineurs sans cadre, et la non-information sur tous les droits, en fait, qui sont en lien avec la privation de liberté. Notre revendication première, c'était quoi ? C'était, alors, nos associations, on est... contre l'enfermement administratif des étrangers. Et du coup, il n'a jamais été question pour nous de demander la création d'un lieu privatif de liberté. Il faut vraiment partir de ce postulat-là parce que ça nous a été demandé par ailleurs. Et du coup, on s'est toujours positionné pour ne pas... on a toujours dit qu'on ne ferait pas ça parce qu'il existe plusieurs... type de zone d'attente, notamment ce qu'on appelle la zone d'attente sac à dos, c'est-à-dire installer une zone d'attente à un endroit où il y a au moins 10 personnes qui arrivent. Et donc, ça aurait pu être le cadre. Mais nous, on s'est toujours refusé à faire ça. Mais du fait du constat de l'existence de ce lieu, qu'on sache qu'il y ait des personnes, et notamment des mineurs, des demandeurs d'asile aussi, qui soient privés de liberté, on a dit, s'il y a privation de liberté, il doit y avoir un cadre légal. Peu importe quelque part celui qui va être, parce que si c'est une zone d'attente, bah, du coup, il y a des droits afférents à la zone d'attente. Si c'est un local de rétention, il y a d'autres droits. Un centre de rétention, ce sera un autre droit. Et si c'est un commissariat, il y aura également d'autres droits. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'a pas pu rentrer en tant qu'association, mais les avocats aussi ont eu du mal à accéder à ce lieu, en fait. Et en général, ils se font refuser l'accès. Donc, personne n'a accès aux personnes qui sont privées de liberté dans ce lieu-là. Elles n'ont pas non plus de téléphone. On nous a clairement dit que c'était peut-être pas la peine pendant le peu de temps où il restait maintenu. Elles n'ont pas nécessairement accès à manger lorsqu'on a rencontré des mineurs dans la Roya qui nous ont expliqué qu'ils avaient été maintenus toute une nuit et qu'ils n'avaient pas eu à manger. Et quand ils avaient demandé à ce que la police aille acheter à manger pour eux, avec leur propre argent, ça leur a été refusé. Bon, voilà, donc c'est des pratiques comme ça. On sait aussi qu'il y a eu 165 personnes qui ont été maintenues dans ce petit lieu-là dans la nuit du 26 au 27 juin. Et donc, pour revenir à notre contentieux, parce que on a donc déposé un référé liberté à 5 associations, donc l'ANAFE, la DDE dont je parlais tout à l'heure, la CIMAD, le GISTI et le Syndicat des avocats de France, notamment pour faire constater en fait les atteintes graves à donc différentes libertés que je viens d'évoquer, et du fait de la création d'un lieu de privation de liberté informel. Du coup, le tribunal administratif, en fait, a rendu une décision particulièrement étrange. Il a été un peu créateur de droit ou de non-droit, c'est-à-dire qu'il a considéré déjà que pour une durée de 4 heures, les personnes pouvaient être privées de liberté sans cadre. Donc voilà, donc ça c'est le premier constat, c'était incroyable. Mais si Donc c'est pour les personnes qui arrivent soit par train, soit par voie terrestre. Hein. Et dans ces cas-là, elles peuvent être privées de liberté pendant 4 heures sans cadre et sans droit, hein, ça va sans dire. Et au-delà de ce délai de 4 heures, la PAF devait les transférer dans la zone d'attente de l'aéroport de Nice. C'est la seule zone d'attente dans les Alpes-Maritimes. Donc du coup, et au-delà de ça, en fait, le tribunal administratif a considéré qu'en fait, il n'était pas nécessaire d'informer les gens de leur demande d'asile, enfin de la possibilité de demander l'asile, pendant un délai de 3 jours. Alors, ce délai aussi est un petit peu incroyable. Hein. Donc le droit d'asile évacué, et concernant les mineurs, il a complètement éludé la question, il n'a pas répondu. Voilà. Donc, nos associations ont fait appel devant le Conseil d'État. Et donc, l'audience devant le Conseil d'État s'est tenue le 27 juin. Et il a rendu sa décision le 5 juillet. Donc, c'était la semaine dernière. Et donc, le Conseil d'État confirme en fait la décision du tribunal administratif en disant qu'effectivement, pendant 4 heures, il n'y avait pas de problème de priver de liberté... les gens sans fondement légal et sans aucun droit. Donc bien que le délai de 4 heures ait été inventé de toute pièce par le tribunal administratif. Hein, ce qui a été intéressant, et je pense que c'est là où c'est particulièrement alarmant, où la décision du Conseil d'État est particulièrement alarmante, c'est sur deux points. La première, c'est que sur les conditions de dignité et dans le cadre des conditions de maintien de ces personnes, le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas d'atteinte à la dignité étant donné que les personnes peuvent avoir accès à des toilettes et qu'on leur propose des bouteilles d'eau. Donc voilà, je vous laisse apprécier. Et l'autre aspect, c'est que du coup, l'audience a eu lieu le 27. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 165 personnes qui avaient été privées de liberté dans la nuit du 26 au 27, et donc du coup nous avions été informés, on avait des militants sur place qui sont allés prendre des photos, qui sont allés recueillir des témoignages, qui se sont entretenus avec des personnes qui étaient demandeuses d'asile. On a suivi aussi des mineurs qui ont été renvoyés en Italie, et on a pu obtenir les témoignages de ces mineurs qui étaient en Italie. Et du coup on a porté tout ça au dossier, et le Conseil d'État a constaté deux choses. Il a constaté qu'il y avait eu des privations de liberté qui étaient supérieures à 4 heures, et il a dit... Les personnes ont donc, tout en rejetant du coup notre recours, il constate cette violation du principe qu'il édicte lui-même, et il explique tout simplement qu'en fait ces personnes ont qu'à aller faire un recours elles-mêmes, toutes seules, depuis l'Italie, pour expliquer que les 4 heures ont été dépassées. Concernant les mineurs, donc on lui a apporté les témoignages de 3 mineurs qui avaient été privés de liberté cette nuit-là et renvoyés en Italie, sachant que le ministère nous avait dit qu'il n'y avait absolument pas de mineurs maintenus dans ce lieu-là, et surtout pas cette nuit-là. Donc il constate là également qu'il y a eu une atteinte au droit de la protection de l'enfance et tout ça, mais même réponse, ils ont qu'à faire un recours tout seuls. Et pour le droit d'asile, il constate que, il ne peut pas constater du coup qu'il y a des demandeurs d'asile, vu que personne ne peut enregistrer sa demande d'asile à la frontière franco-italienne. Et c'est tout là l'enjeu, en fait, de faire reconnaître l'existence de ce lieu-là où les personnes ont le droit, en fait, d'être protégées d'être protégées pour les mineurs et de demander l'asile, parce que les personnes vont pouvoir faire enregistrer, en général c'est ce qui se passe en zone d'attente, c'est que la personne doit pouvoir faire enregistrer sa demande d'asile, et si elle ne le peut pas, il y a des associations comme l'ANAFE, la CIMAD, qui interviennent dans ces lieux-là pour les accompagner dans ces démarches-là. Et à l'heure actuelle, les associations n'ont pas accès à ce lieu et à ces personnes. Et donc du coup, le Conseil d'État constate, précise que ces personnes, si elles ont un problème avec l'enregistrement de leur demande d'asile, doivent aussi elles-mêmes faire un recours. Voilà. Donc, autant vous dire que quand on n'est pas francophone et qu'on a été renvoyé par la police aux frontières plusieurs fois, c'est un peu compliqué de faire un recours, sachant qu'en plus, le risque, c'est que vu que pour ceux qui auront été libérés, et même pour les mineurs qui seront renvoyés en Italie, le risque, c'est que le tribunal considère ensuite que l'atteinte a cessé et donc rejette leur recours individuel. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, on y reviendra sans doute plus tard. Les autres axes pour nous, donc de travail suite à cette mission. Donc il y avait du coup ce contentieux qui était général. La question se pose du coup d'accompagner ces personnes, même si on sait que ce sera quelque chose d'extrêmement lourd et qui ne peut pas se faire à deux associations, quelques militants locaux. Du coup, on réfléchit, on travaille en interassociatif avec un réseau plus large en fait d'associations pour pouvoir soutenir déjà les acteurs qui sont déjà très investis. Après, ce qu'on a fait et ce qu'on continue de faire aussi, c'est beaucoup du plaidoyer auprès des autorités nationales et internationales de contrôle et de protection des droits, en fait. Donc, toutes les instances nationales, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, mais aussi l'OFPRA sur la question de l'enregistrement de la demande d'asile, ou après le comité des droits de l'homme de l'ONU que nous avons contacté également à ce sujet. Et voilà, je vais passer un petit peu le relais à Marine qui va vous parler plus longuement du délit de solidarité.
Et aussi peut-être redire qu'au niveau de... Ça se mobilise quand même pas mal au niveau de la frontière franco-italienne. On a toute une démarche interassociative là qui a pour but de réaliser une coordination un peu effective entre les acteurs locaux, nationaux et italiens. Enfin, locaux, nationaux, français, et puis les acteurs du côté italien, pour pouvoir réagir en cas d'urgence, mais aussi pour pouvoir porter ensemble des positions communes, un plaidoyer commun, etc. Voilà, pour être mieux organisé et faire ressortir les constats qu'on observe à la frontière, mieux armer aussi, outiller les acteurs locaux, mais aussi les personnes exilées. Donc là, ça fait plusieurs fois qu'il y a des rencontres interassociatives à Nice. Voilà, où à chaque fois, on est, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine. Et donc là, il y a trois gros chantiers qui sont montés. Un sur l'aide humanitaire, un sur le soutien juridique aux personnes migrantes, avec l'idée d'avoir une stratégie un peu de contentieux, justement, pour continuer dans la même veine que le référé, mais sur des cas individuels et de manière un peu massive, costaude, pour montrer aux tribunaux, mais aussi aux médias et à l'administration qu'en fait, on ne va pas juste laisser les violations continuer, mais qu'on va vraiment les attaquer, qu'on va vraiment les submerger de cas pour montrer que c'est massif ce qui se passe à cette frontière. Et puis un chantier sur la protection des mineurs isolés, mais sur lequel on ne va pas forcément revenir aujourd'hui. Mais voilà, il y a énormément de collectifs et qui essayent de bosser là-dessus dans les Alpes-Maritimes. Au même titre que dans d'autres départements en France, hein, sur la non prise en charge des mineurs isolés et sur les soucis dans l'accompagnement et dans la protection. Voilà, donc juste pour finir aussi sur une note de mobilisation, je voulais un peu vous parler du collectif Délinquants Solidaires. C'est un collectif qui s'est monté, qui s'est réveillé, on va dire, parce qu'il existait déjà en 2008-2009, où il y avait eu un certain nombre de mobilisations sur la question du délit de solidarité. Et à l'époque, la loi avait été amendée pour ajouter une clause humanitaire, mais qui est complètement bidon, parce qu'en fait, c'est une clause qui dit que, oui, vous pouvez héberger des personnes, mais sans contrepartie, c'est même pas dit financière, hein, sans contrepartie, et pour sauvegarder la dignité de la personne. Donc en fait, c'est sur un cas spécifique et il y a des conditions en plus que vous pouvez être avoir une immunité humanitaire. Enfin bref. Et puis donc là, ça a été réactivé en 2016, cette mobilisation autour du délit de solidarité, avec le constat qu'il y avait depuis 2 ans une recrudescence des poursuites envers les personnes, appelons-les personnes solidaires avec les exilés. Et surtout, une grande créativité de l'administration en termes de délits invoqués pour poursuivre ces personnes. Donc on n'est pas que sur l'article L622 sur l'aide à la circulation, au séjour et au franchissement de frontières de personnes en situation irrégulière, blabla. On est vraiment sur plein de délits invoqués, le code de la route, troubles à l'ordre public, violence sur agent, comment c'était ? Ils avaient dit entrave à la bonne circulation d'un aéronef, enfin, je sais pas quoi, sur des trucs parce qu'il y a des personnes qui ont refusé de monter dans l'avion ou de s'asseoir pendant une expulsion, etc., etc. Donc voilà. Et donc partant de ce constat de la recrudescence des poursuites, il y a eu un manifeste qui a circulé et qui a été signé par plus de 650 organisations en France et puis par des réseaux européens pour demander la fin du délit de solidarité. Depuis le collectif essaye de rendre un peu visible ces cas, si les personnes le souhaitent, et de pouvoir soutenir aussi les personnes poursuivies en relayant leur histoire, en médiatisant aussi les procès, parce qu'on s'est rendu compte que si les personnes le souhaitaient, évidemment. Quand on médiatise ce genre de procès, en fait, ça va après plutôt dans le bon sens au niveau du délibéré, sans vouloir dire que les juges sont influencés par l'opinion publique. Mais ça permet en tout cas d'avoir une mobilisation et de raconter une histoire aussi auprès de l'opinion publique. Voilà, sur certains cas, on a vu que c'était important aussi pour que la personne ne se sente pas complètement abandonnée et seule face à une machine administrative qui veut la criminaliser alors qu'en fait, elle a pris des gens en voiture sur une route, par exemple, parce qu'en fait, il était 2h du matin, qu'il pleuvait et que juste, il y a quand même pas mal de gens qui auraient fait la même chose. Voilà ce que je voulais dire. On a un certain nombre aussi de projets qui sont en cours pour mieux outiller des personnes poursuivies et pour peaufiner notre stratégie de plaidoyer, notamment pour demander la fin, concrètement dans la loi, demander la fin des poursuites pour les personnes solidaires avec toute personne étrangère, en fait. Voilà.
Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose là-dessus, c'est que déjà, le nombre de délinquants solidaires sont des militants à la frontière franco-italienne. Bon, il y a Cédric Héroux, mais il y en a beaucoup d'autres, en fait, et des deux côtés de la frontière. Donc, c'est aussi pour ça que c'était un de nos axes de travail dans notre mission. Et là où, en fait, c'est particulièrement inquiétant, c'est qu'au-delà de la pression institutionnelle et des violences institutionnelles à l'encontre des aidants, on voit se développer, en tout cas, on l'a vu à la frontière franco-italienne la semaine dernière, des menaces, en fait, de particuliers à l'encontre de militants. Là, pour ce qui est de la frontière franco-italienne, c'est une avocate qui est investi dans la question notamment de la protection des mineurs des migrants en fait en général qui a reçu des menaces de mort en fait la semaine dernière et du coup c'est aussi pour attirer votre attention au-delà de la violence institutionnelle c'est la nécessité aussi pour nous acteurs de la société civile et puis associations d'apporter notre soutien en fait à ces personnes parce qu'en fait elles sont extrêmement menacées, mises en avant et mises en danger du fait de leur solidarité à l'égard des migrants ou de leur travail, en fait. Voilà.
Ouais, j'ai juste le mot de la fin pour remonter sur le cadre européen. C'est que c'est pas seulement... moi, je sais pas si vous... sur quoi vous bossez ou sur quoi vous êtes engagé ou ce que vous lisez. Mais vous avez peut-être entendu tout ce débat autour de l'intervention, le sauvetage des personnes en mer et les ONG qui sont un peu sous le feu de la rampe dans le mauvais sens et qui sont... c'est très insidieux, mais qui sont quand même largement accusés de faire le jeu des passeurs, de faire de l'appel d'air, alors qu'en fait, juste, elles sont là pour pallier à une non-intervention en fait, des États européens en mer, qui fait que chaque année, on bat les records de nombre de morts dont on sait qu'ils sont morts parce qu'il y a tellement de personnes qui sont aussi simplement disparues et qui sont pas dont on n'a pas conscience de l'existence et de la disparition Bref, donc vous avez entendu ça. Donc c'est aussi pour remettre ça dans ce contexte où il y a à la fois un discours des institutions qui ne va pas forcément être frontal. Ça, ils ne vont pas forcément dire MSF, c'est des passeurs. Enfin, là, je caricature, hein, mais ça va être insidieux. C'est-à-dire, on va dire qu'il faut un code de conduite pour les ONG. Il y a un procureur qui va dire que quand même, ça favorise l'appel d'air, etc. etc. Donc, c'est, voilà. On a ça d'un côté, le discours institutionnel, le discours politique. Et de l'autre côté, on a, et c'est la même chose dans les Alpes-Maritimes, hein, on a un Ciotti, on a un Estrosi, on a des barons locaux, des candidats FN qui vont faire ce genre de discours, c'est des migrants économiques, etc. Sachant que les premières nationalités, c'est Soudan, Érythrée, Afghanistan, qui passent cette frontière. Voilà, je vous laisse voir ce que ça veut dire. Et on a à la fois des groupuscules identitaires sur les deux sujets dont je parlais, qui vont surfer un peu sur ce discours de fermeture et d'exclusion pour dire en gros non à l'accueil, non aux migrants. Donc voilà, c'était un peu pour faire ce lien entre délit de solidarité et contexte aussi, enfin voilà, entre un discours institutionnel et politique de rejet et en fait comment des groupuscules sur le terrain vont se permettre d'envoyer des menaces de mort méga, enfin bon, c'est toujours violent une menace de mort, mais bon, là, avec une photo de la Seconde Guerre mondiale, enfin des trucs, à une avocate, c'est-à-dire, voilà.